On va commencer ce matin notre section sport par le Marathon de Montréal. On se souvient que lors du dernier marathon, un jeune coureur a été victime d'un arrêt cardiaque. Et là, il y a eu toutes sortes de questions sur les procédures, sur le nombre de bénévoles, le temps de réponse d'urgence santé. Bref, ce jeune homme, Patrick Neely, qui s'est écroulé près du 19e kilomètre du demi-marathon. Et ça a amené le départ du directeur du marathon et la nomination d'un nouveau directeur, Alain.
Oui, Eddy Affam, qui est avec nous ce matin, nouveau directeur général. Mario Blain, qui a été nommé directeur des opérations également. Et dans les deux cas, il s'agit d'un retour au Marathon international de Montréal. Monsieur Affam, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Affam, je ne voudrais pas faire de vilains jeux de mots, là, mais avez-vous eu l'occasion de faire l'autopsie de ce qui est arrivé lors du dernier marathon? Parce qu'on parle évidemment du décès de Patrick Neely, mais il y a eu ce retard de près d'une heure au départ. Il y a eu le parcours également qui a été très critiqué parce que les coureurs d'élite, à un moment donné, ont croisé les amateurs. Là, évidemment, c'est pas facile dans les rues de Montréal actuellement, mais avez-vous eu le temps là, de faire un bilan de ce qui est arrivé et de tirer vos conclusions?
Pas encore. Je vous parle quand même très rapidement. On n'a même pas signé notre entente encore. On s'est serré la main. On a convenu qu'on relevait ce défi. Donc, on n'a pas toutes les informations. Fait que je vais être très prudent dans ma réponse. C'est sûr qu'on a un gros bagage d'expérience derrière nous qui peut peut-être nous amener à pointer un peu des directions qui pourraient éclairer plus rapidement la situation. Au moment où on se parle aujourd'hui, j'ai pas la réponse. C'est sûr qu'on veut faire la lumière sur ça. Mais le plus important pour nous, c'est de, disons, tourner la page sur cette édition-là et regarder sur une belle 30e édition pour l'année prochaine.
Mais, par exemple, des questions de base. Est-ce qu'il y avait assez de bénévoles ce dimanche-là? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, je ne sais pas, de communication, des bris d'appareils? Est-ce que vous savez un peu s'il y a eu des lacunes de ce côté-là?
Je peux pas prétendre qu'il y a eu des bris. Je peux pas prétendre qu'il y a eu un manque de bénévoles parce que j'ai vraiment pas la réponse. Je peux par contre m'engager pour dire qu'on collabore avec les enquêtes et que s'il y a quoi que ce soit qui ressort, ben c'est sûr que les correctifs vont être appliqués. J'aurais tendance à dire par expérience que c'est des fois des difficultés de communication dans l'arrimage entre les différents intervenants, mais de là à dire qu'il y a eu un problème, c'est peut-être un peu précoce pour conclure ça là.
Parce que quand vous parlez de communication, il y a une femme médecin qui était intervenue auprès du coureur là qui est décédé, qui dit elle qu'il a fallu attendre tout près d'une demi-heure, 25 minutes avant de voir arriver les ambulances d'urgence santé. Le marathon dit que ça a pris 7 à 8 minutes. Vous venez du milieu d'urgence santé, vous avez travaillé au marathon. Est-ce que c'est possible qu'on ait à attendre 30 minutes avant de recevoir de l'aide?
Pour ce genre d'intervention, je suis assez catégorique que non. D'ailleurs, urgence santé, il y avait sorti des chiffres au niveau de l'article de Mme Lacourcière dans la presse. On parle plutôt de 7-8 minutes de temps-réponse qui, dans leur mission, à eux, tout à fait normal. Au niveau de l'événement, il y a des normes auxquelles, d'ailleurs, j'ai contribué dans l'écriture qui parlent de 3 minutes. Clairement, peut-être les ressources étaient disponibles, mais clairement, il y a quelque chose qui n'a pas bien été. Nous, notre responsabilité maintenant, c'est de faire la lumière là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les années précédentes dans lesquelles on a assumé la coordination médicale, moi et mon équipe, on n'a jamais eu des histoires comme ça. Donc, c'est clair que quelque chose n'a pas bien été. On va mettre la lumière là-dessus. Je suis confiant pour dire qu'en 2020, le fait que je suis nommé aujourd'hui comme directeur général, ça vient avec un engagement que la sécurité et la santé des participants, c'est au cœur de mes priorités, puis que clairement, on va mettre tous nos efforts là-dessus. Là.
Parlons du parcours. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont plaints. Puis là, c'est vrai aussi que la réalité montréalaise fait en sorte que il y a plus de comptes que de coureurs. Là. Ouais. Comment vous allez approcher ça pour le prochain marathon?
Réviser un parcours. D'ailleurs, c'est un engagement. On l'a annoncé. On a l'intention de réviser le parcours pour 2020. On veut coïncider ça avec un 30e anniversaire. Donc, ça va peut-être venir avec des petits bonbons qu'on va annoncer dans les prochains mois. C'est une logistique absolument extraordinaire de préparer un parcours de marathon. Ça prend une collaboration vraiment main dans la main avec tous les acteurs, principalement la Ville de Montréal, qui est un partenaire fondamental dans la réussite de ce genre de travail-là. C'est sûr, il faut regarder toutes les entraves, les travaux planifiés, les restrictions. T'sais, quand on fait un parcours, on peut pas enclaver un hôpital. Il y a certaines restrictions comme ça qu'on doit prendre en considération. Mais on a déjà commencé à se pencher sur la question et on espère d'ici peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, pouvoir publier quelque chose.
Je me souviens qu'il y a des coureurs qui disaient que c'était, on passait à des endroits qui étaient peut-être pas les plus beaux en ville, puis que, tu sais, quand ça fait partie aussi du quand on participe à un marathon là, de l'expérience.
Ben il y a ça et on veut donner une belle image à la ville. Je veux dire, on attire des gens de l'extérieur aussi. On a un marathon qui amène des élites. Donc l'image qu'on veut envoyer quand même, c'est une ville fantastique qui accueille un événement mondial. Donc on a quand même cette responsabilité là de donner un certain blason. C'est sûr qu'on a des limitations comme tout autre promoteur qui fait des événements, mais bon, l'engagement qu'on prend, c'est de prendre tout ça en considération et de livrer quelque chose qui va être à la hauteur des coureurs.
Le marathon appartient à une société qui est réputée pour compter ses sous. Êtes-vous obligé de couper les coins ronds parce que vous n'avez pas les budgets nécessaires?
Non.
Pour organiser un marathon, là...
Non, jamais. Puis de mes conditions d'embauche, c'était assez clair aussi. On a un contrôle entièrement local. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un directeur général. C'est une première pour le marathon d'avoir sous contrôle l'étranger. Les compagnies américaines qui nous supportent là-dedans sont des actionnaires. Ils nous partagent un réseau. Mais l'événement est entièrement contrôlé localement avec une équipe du Québec, de Montréal. Donc, on n'a pas cette contrainte-là. On a entièrement la liberté des budgets. Et
vous générez vos propres budgets,
On a une enveloppe budgétaire qui nous est allouée et elle n'est définitivement pas moindre que ce qu'on a eu dans le passé. Là.
Monsieur Affram, merci d'être venu ce matin.
Merci
le nouveau DG du Marathon de Montréal. Parlons football également.
Oui, parce que les Alouettes vont jouer dimanche la demi-finale de l'Est contre les Eskimos d'Edmonton et ça va se passer au stade Percival Molson. Et on va accueillir le joueur de centre des Alouettes, Christian Matte. Christian Matte, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. D'abord, félicitations parce qu'on a appris hier et vous avez appris que vous faisiez partie des étoiles de l'Est pour la saison 2019.
Oui, merci beaucoup. Je suis très honoré par ça, mais quand même, c'est un effort de groupe. Fait que je suis très honoré puis très content personnellement.
Là, vous avez amorcé la préparation pour le match de dimanche. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe? Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui vous voyait jouer un match éliminatoire cette année, là.
On est très excités, puis effectivement, au début de l'année, il y a beaucoup de monde qui pensait pas qu'on allait se rendre, mais nous autres, on le savait avec le noyau de joueurs qu'on avait, puis le coaching staff qu'on avait une chance. Et puis, si on se donne une chance, c'est vraiment ça qu'on avait besoin. Puis, on a travaillé très fort cette année, que Harry Jones nous a vraiment motivés pour élever notre jeu, et puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis, on a hâte de jouer, on est excités, puis on est excités pour la foule montréalaise, en effet.
Est-ce que c'est lui, Carey Jones, qui est à l'origine de cette transformation chez les Alouettes cette année?
Ah, je pense très bien que oui, parce qu'il est capable de nous motiver. C'est un jeune coach quand même dans la Ligue canadienne, puis c'est un gars qui a été joueur pendant longtemps. Fait qu'il sait quand c'est le temps pour être sérieux, mais aussi quand c'est le temps pour avoir du fun. Et puis cette année, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en emphase, c'est d'avoir du plaisir au football. Et puis avec ça, on a eu plus de succès. Il y avait moins de pression côté business, on va dire, pour avoir du succès. C'était vraiment pour avoir du plaisir. Puis avec ça, on a été capable de mieux jouer, moins de pression et puis de donner des bons spectacles.
J'ai une question. Vous avez remporté la Coupe Grey en 2010. Faites-moi un parallèle entre le football de 2010, les Alouettes de 2010 et le club aujourd'hui.
Je pense que la différence, c'est qu'en 2010, on avait une très bonne équipe. On avait Anthony Calvillo, le carrière, des gars comme Jamel Richardson, S.J. Green. Et puis le pointage à chaque match, je pense qu'on mettait au moins 40 points à chaque match. Fait qu'on était quand même assez dominant. Cette année, la différence, c'est que on n'est pas peut-être dominant dans le sens qu'on met 40 points, mais on est dans tous les matchs. Peu importe qui qu'on joue, on est dans les matchs, on lâche jamais. On est en train de persévérer à travers des moments difficiles parce qu'on fait quand même des erreurs. On n'est pas rendu peut-être l'équipe de 2010, mais on est en train de monter la côte. On a de la persévérance, comme j'ai dit, et puis on a du plaisir. Et puis on a un très bon noyau de joueurs et coach aussi. Et c'est vraiment ça la différence cette année.
Ben bon match dimanche. Oui. Et c'est à 13h contre les Eskimos d'Edmonton. Merci, bonne journée,
merci
M. Matte.
Merci beaucoup, vous aussi.
Bon, sur moi, l'effet sonore sur le mystère, parce que le Canadien joue ce soir.
Sur le suspense.
Le suspense. Attends un peu, John. Laisse jouer ça, je vais te mettre la table. Alain, que se passe-t-il chez le Canadien?
Eh bien, Paul, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé en début de semaine, alors qu'on nous avait dit qu'il espérait que Kotkaniemi ne jouerait pas contre les Bruins, ni contre les Flyers ce soir, ni contre les Kings samedi, voilà-tu pas? On a appris qu'il avait accompagné l'équipe à Philadelphie.
Oh.
Et là, l'entraîneur Claude Julien...
Mais va-t-il jouer?
Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Lui a déclaré au journaliste « Je suis prêt à jouer ». Claude Julien a dit « Il a fait le voyage, ensuite nous verrons ».
Eh bien, nous verrons.
Eh bien, oui, Paul.
Ce sera le suspense jusqu'à ce soir.
Allez, être capable d'attendre.
On n'a pas le choix, qu'est-ce que tu
veux? Peut-être jusqu'à midi après l'entraînement du matin.
Ah, ça, c'est bon point. On va surveiller ça. 8h22. Autoroute des Laurentines, encore une fois.